Décryptage. Marion Cazanov.
Il y a un an, la Nouvelle-Calédonie s'embrasait. Ce territoire français d'outre-mer a été secoué des semaines durant par des violences qui ont fait 14 morts, des centaines de blessés, 2 milliards d'euros de dégâts. La violence liée à une réforme du corps électoral et qui oppose indépendantistes et non-indépendantistes. Aujourd'hui, si la situation est calme en apparence, les braises sont encore brûlantes et le feu pourrait repartir à la moindre étincelle. C'est ce qu'écrit Benoît Trépied dans son livre « Décoloniser la Kanakee Nouvelle-Calédonie ». Alors un an après, où en est cette crise politique et sociale sur le territoire? Pourquoi le dialogue n'avance pas? On répond à ces questions ce soir dans Décryptage. Bonsoir Benoît Trépied.
Bonsoir.
Je viens de citer votre livre, publié aux éditions Anacharsis. Vous êtes anthropologue au CNRS, spécialiste de ce territoire. Et en studio avec moi, Mico Blujon-Méret, bonsoir.
Bonsoir.
Chargé d'enseignement en géopolitique des Outre-mer à Sciences Po Paris. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Les gens ne veulent plus aller chez les uns, chez les autres. Ah ben non, viens, on se retrouve à tel endroit. Non, je vais pas là, parce que ce soir, si je pars trop tard, il pourrait y avoir quelque chose. Tout ce que j'attends des Calédoniens, c'est du discernement, de faire la part des choses. Ce qui a été, ce qui sera, c'est à bâtir. Donc il faut vraiment qu'on se tourne vers le futur.
Voilà, on vient d'entendre une habitante du quartier populaire de Caméré, dans la capitale Nouméa, qui essaie de relancer l'activité de ce quartier, qui a été très marqué, meurtri par ces violences, avec de nombreux barrages et incendies en mai 2024. Elle était au micro de notre correspondante, Charlotte Manvy. Aujourd'hui, Benoît Trépied, que reste-t-il de ces barrages? Est-ce qu'il y a encore des stigmates de ces violences?
Alors, les accès sur la voie publique ont été libérés désormais, mais l'agglomération de Nouméa porte encore beaucoup de stigmates visibles, c'est-à-dire des bâtiments calcinés, énormément encore, de bâtiments qui n'ont pas été reconstruits ou bien qui ont été détruits, mais où il y a des terrains vagues, des graffitis au sol et sur les murs encore qui portent la trace de ces violences, mais l'essentiel des cicatrices, je dirais, elles sont certes dans le paysage urbain, mais elles sont surtout chez les gens, puisqu'en fait, il y a eu un durcissement des positions et une peur de l'autre et des formes de haine qui se sont exacerbées, qui fait que la situation reste aujourd'hui encore très tendue dans l'agglomération du Grand Nouméa. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans le reste du pays, en revanche, et c'est aussi au moins aussi important, le feu n'a pas pris l'année dernière, disons, et les gens sont restés dans des relations de proximité, dans ce projet de réconciliation qui est toujours en cours.
Alors rappelons ce qui, Mico Blujon-Méret, ce qui le 13 mai 2024 provoque des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Tout part d'un projet de loi débattu à l'Assemblée nationale à Paris, à des milliers de kilomètres de là.
Oui, c'était le projet de loi constitutionnel de dégel du corps électoral calédonien. Alors de quoi s'agit-il? En fait, l'idée, elle est assez simple. C'est à partir du moment où on doit définir l'avenir du territoire et à partir du moment où on doit voter également pour les représentants locaux, notamment singulièrement pour les élections provinciales, qui est capable de voter? Et cette question du qui est capable de voter est extrêmement importante parce que du coup, comme on se retrouve d'un point de vue démographique avec une immigration sur le territoire depuis la France hexagonale vers la Nouvelle-Calédonie, on voit une population, on va dire, loyaliste ou française qui augmente, et petit à petit, les Kanaks sont retrouvés en minorité démographique sur leur propre territoire. Et donc, dans ce contexte-là, la réouverture de cette question du dégel, donc la réouverture, en fait, de la question de savoir qui a le droit de voter, de fait, a été comprise, notamment donc, par les Kanaks, comme une considération très claire que on allait s'acheminer vers une situation où les Kanaks allaient se retrouver donc en minorité par rapport aux loyalistes, aux Français hexagonaux, etc. Et ça, c'était inacceptable pour beaucoup. Et évidemment, c'est pour ça, et pas que, qu'il y a eu évidemment un regain de violence.
Et donc ça attise un peu plus, ça a attisé encore plus la colère de la population kanak, parce que donc le point de départ, ce n'est pas mai 2024, Benoît Trépied. On n'aura pas le temps de faire toute l'histoire, mais pour comprendre cette colère, un peu de contexte, il faut expliquer ces tensions depuis des décennies entre indépendantistes et non-indépendantistes.
Oui, en fait, le nœud du problème du contentieux colonial calédonien qui se repose encore aujourd'hui, c'est que ce territoire a été une colonie de peuplement, c'est-à-dire que la France a pris possession de ce pays non seulement pour exploiter ses ressources, mais aussi et surtout pour y créer une autre société avec des vagues d'immigration venues de métropoles et d'autres territoires d'outre-mer, et que cette dynamique, comme ça a été dit, ça a fait que deux sociétés antagonistes se sont fait face, entre d'une part la société kanak indigène qui était recluse et expulsée de sa société, et puis la société coloniale blanche, d'une certaine façon, qui a continué son expansion jusqu'à ce que les Kanaks deviennent minoritaires. Et du coup, quand il a fallu lui dire, effectivement, ben nous, les Kanaks ont dit, nous, on veut se décoloniser par l'indépendance, la question a été de dire, qui peut se prononcer sur l'autodétermination? Et du coup, après bien des violences, il y a eu un compromis avec cette idée, cette création d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dans la citoyenneté française. C'est une création de l'accord de Nouméa de 1998 qui dit que les Kanaks et les non-Kanaks qui sont là depuis longtemps, depuis des générations, qui appartiennent à ce pays, qui ne sont plus d'ailleurs, se réconcilient dans une citoyenneté commune. Mais cette logique de la citoyenneté commune, elle exclut les gens arrivés récemment, et donc le droit de vote, puisque comme toutes les citoyennetés, il y a un droit politique, c'est le droit de vote pour les élections provinciales, elle est réservée aux citoyens calédoniens, ce qui n'empêche pas que les autres Français arrivés récemment votent aux autres élections municipales, présidentielles, législatives. Donc il y a plusieurs corps électoraux qui doivent coexister.
Alors aujourd'hui, le ministre des Outre-mer essaie d'apaiser la situation. Il a lancé un dialogue. Il s'est rendu 3 fois sur place depuis février. Voilà ce que disait Manuel Valls. Il y a 2 semaines, c'était sur la chaîne de télé Calédonia.
Un référendum, c'est toujours une coupure en deux. Au bord du gouffre, la Nouvelle-Calédonie, avec ses morts, ses blessés, ses destructions, doit se reprendre. Je le dis aussi avec beaucoup de sincérité. C'est l'accord. Ou c'est l'impasse, c'est l'accord, ou c'est la crise économique, sociale, politique. Qui voudra investir en Calédonie? Qui voudra rester en Calédonie s'il n'y a pas de la stabilité, s'il y a de la paix?
Voilà, c'est soit l'accord, soit l'impasse. Et il est reparti une nouvelle fois les mains vides, Manuel Valls, et qui proposait notamment, Mico Blujon-Mered, un partage de souveraineté. Ça veut dire quoi et pourquoi ça ne prend pas?
Alors, le partage de souveraineté peut prendre plein de formes différentes. En fait, quand on regarde la géopolitique des Outre-mer, pas que français, puisqu'il y a une vingtaine de pays dans le monde qui ont donc des Outre-mer ou qui en administrent, pas tous d'ailleurs issus d'un processus de colonisation ou de décolonisation aujourd'hui, on voit que cette notion de l'État associé existe dans plusieurs territoires. On va le retrouver par exemple en Nouvelle-Zélande, où on a 2 territoires éloignés d'un point de vue distance de la Nouvelle-Zélande qui maintiennent une forme d'association. On peut le voir avec Porto Rico, qui a une forme d'association avec les États-Unis d'Amérique, etc. Et donc dans ce contexte, là, ce qui a été porté d'abord informellement dans les années 80, puis ce qui est maintenant porté de plus en plus formellement et qui a été porté formellement par Manuel Valls dans le cadre du conclave, donc de cette réunion entre indépendantistes et non-indépendantistes qui se voulaient trouver justement une voie de sortie ces derniers jours, ça a été de dire voilà, on peut faire revivre cette idée d'État associé où la Nouvelle-Calédonie deviendrait un État associé à la France, c'est-à-dire à la fois un État indépendant qui a sa propre souveraineté, qui gère ses propres lois, etc., etc., mais qui conserve institutionnellement un lien particulier, un lien stratégique, et pas juste un lien économique ou culturel, mais un vrai lien institutionnel, donc avec une puissance X, en l'occurrence ici la France.
Donc lui proposer un peu plus d'indépendance, un peu plus de souveraineté, on peut le dire comme ça, et les loyalistes, pour eux, ça bloque, c'est ça qui prend pas, c'est de leur côté que ça bloque.
En fait, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment dans un certain nombre de pays, cette notion de l'État associé fonctionne, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cette logique de dire, voilà, si on devient un État associé à un autre pays, on est soit complètement indépendant et en fait pas tout à fait, ou soit en fait on n'est pas du tout indépendant, il faudrait plus d'indépendance. On n'a pas vraiment ce genre de dialogue, ce genre de positionnement. En fait, là ce qu'on est en train de voir en Nouvelle-Calédonie, c'est une polarisation encore exacerbée, si c'était possible, du débat entre loyalistes et indépendantistes, avec l'idée de dire, pour les uns, cet État associé, c'est une forme d'indépendance, c'est trop. Ça, c'est évidemment le discours des loyalistes, des non-indépendantistes. Et de l'autre côté, les indépendantistes qui disent « Bon, c'est pas évidemment ce qu'on voulait, mais c'est un compromis qui nous permet d'exister en tant qu'État, en tant que Kanaki, avec un lien avec la France, notamment par exemple sur les questions de défense, d'assistance environnementale, de choses comme ça qui sont absolument importantes évidemment pour l'avenir de la société calédonienne, Kanak dans son ensemble. »
Benoît Trépied, les loyalistes donc sont contre cette proposition. Qu'est-ce qu'ils proposent, eux, face à cela ?
Alors, la contre-proposition qu'ils ont faite, c'est celle d'un, ce qu'ils appellent un fédéralisme interne, mais qui inscrit finalement une dynamique de différenciation qui tend vers la partition du pays, c'est-à-dire qu'il y a 3 provinces en Calédonie, dont 2 sont dirigées par les indépendantistes au nord et aux îles, et 1 dans le sud. Et l'idée, c'est que le nord et les îles pourraient s'inscrire justement dans une forme d'État associé, pendant que la province sud resterait pleinement partie intégrante de la République. Donc c'est une logique de partition, c'est-à-dire c'est un peu les Comores et Mayotte qu'on rejouerait au XXIe siècle, alors même qu'on sait à quel point c'est pas vraiment très très positif comme comme issue. Et surtout, en fait, dans l'accord de Nouméa, il y a spécifiquement, il est écrit que la Calédonie ne devra pas aller vers une dynamique de partition. Et c'est à ce titre-là que Manuel Valls a dit que cet accord n'était pas recevable. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cet accord proposé par Valls de ce qu'il appelait souveraineté avec la France, elle a recueilli non seulement l'assentiment de toutes les forces indépendantistes qui étaient autour de la table, Kanak, disant effectivement bah, c'est une forme de compromis dans laquelle on peut s'inscrire, mais aussi l'accord d'un petit parti central pivot qui s'appelle l'Éveil océanien, et même de Calédonie Ensemble, qui sont des non-indépendantistes modérés. C'est-à-dire que sur les 6 délégations, il y avait 4 délégations qui étaient pour ça, et c'est vraiment les loyalistes qui sont la branche la plus radicale des anti-indépendantistes, qui ont refusé bec et ongle cette solution, qui de fait, comme ça a été dit, est une solution de compromis où chacun peut retrouver une bonne partie de ses billes. Et en fait, ça fait des années qu'elle est discutée, et ça fait des années qu'on a bien conscience que ce serait une forme de... Parce qu'en fait, les Kanaks n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas de lutter, tant qu'ils n'auront pas un recouvrement de souveraineté. Mais ils le disent depuis longtemps également, si on a un recouvrement de souveraineté, on est tout à fait prêt à construire de nouvelles formes de partenariat avec la France et finalement d'inventer un nouveau modèle de décolonisation qui passe plus forcément par une indépendance sèche et entière. On est au 21e siècle, on n'est plus dans les années 50. Il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre pour trouver une nouvelle forme de décolonisation et continuer à faire de la Calédonie ce laboratoire exceptionnel de la décolonisation. Et c'est cette dynamique-là qu'a accompagné Manuel Valls et contre laquelle les loyalistes se sont insurgés.
Et vous vouliez ajouter quelque chose, Mikko Bljugan-Mered, là-dessus ?
Oui, je suis 100% d'accord, évidemment, avec Benoît Trépied. Et là-dessus, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on a ce parti que Benoît Trépied évoquait, l'Éveil océanien, qui est un parti pivot, centriste, effectivement, dans la vie calédonienne. C'est un parti qui, en fait, est le parti de la communauté wallisienne et futunienne, donc c'est-à-dire d'un autre outre-mer français, on va dire, un petit peu plus encore dans le cœur du Pacifique, mais qui a une communauté très importante en Nouvelle-Calédonie. Et de fait, ce qui était très intéressant, c'était que ces acteurs-là, qui à la base sont en dehors du jeu, si vous voulez, entre indépendantistes d'un côté et loyalistes ou français de l'hexagonaux de l'autre, bah, le fait qu'ils jouent le jeu et qu'ils soient partie prenante de cette dynamique d'accord, ou en tout cas dans cette dynamique de concertation, sur ce volet État associé, c'est extrêmement important parce que c'est un signal positif qui montre que cette idée d'État associé peut marcher, pas juste pour effectivement la communauté Kanak. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important ici, c'est de dire que, alors je ne sais pas comment c'est arrivé au fur et à mesure dans le débat, mais d'un point de vue narratif, là où on parle d'État associé effectivement en règle générale dans les autres pays qui ont ce genre de mécanisme institutionnel, là ici, le narratif qui s'est imposé, le mot qui s'est imposé, c'est indépendance-association. Indépendance-association, c'est comme ça que ça a été porté. Et cette logique d'indépendance-association, ce mot-là, ça ne peut pas convenir effectivement aux loyalistes les plus radicaux. Et ces loyalistes les plus radicaux, c'est pas n'importe qui, c'est pas des groupuscules, c'est aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir dans la province sud. C'est aujourd'hui un sénateur, c'est aujourd'hui un député du territoire. Donc fondamentalement, ici on a des gens qui sont dans une démarche évidemment pas juste loyale vis-à-vis de l'Hexagone, mais qui ont proposé une partition qui, en fait, comme ça a été dit par Benoît Trépied, une partition du territoire, une solution à deux États, on dirait dans d'autres régions du monde que vous connaissez, où effectivement on est en violation directe avec le processus ou l'idée de Calédonie une et indivisible. Donc dans ce contexte-là, il y a un élément qui va être clé aujourd'hui, c'est comment peut-on faire prendre conscience aux différents partenaires autour de la table, y compris les loyalistes, que être un État associé, c'est pas être un État complètement indépendant.
Voilà, donc on a parlé des blocages. Je me permets de passer à autre chose, au volet économique. Il y a urgence à mettre fin à cette crise, puisque Benoît Trépied, l'économie calédonienne est à terre. Est-ce que vous pouvez nous décrire quels secteurs, par exemple, sont les plus touchés ?
Ah, alors, tous les secteurs sont touchés. Hein, la situation est complètement cataclysmique puisque c'est 2 milliards de dégâts. On conduit un nombre incalculable d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Il y a eu un recul sur un an de 10 à 15% du PIB de la Calédonie. On a un emploi sur 5 du secteur privé qui a été détruit. Donc, des masses de gens qui sont au chômage. Chômage qui doit arriver à son terme, chômage partiel là en juin. Donc, des problèmes d'alimentation, des problèmes de logement, des problèmes de minima sociaux. Enfin, vraiment une situation extrêmement catastrophique. le secteur nickel, qui est le poumon fondamental économique, puisque la Calédonie est un des grands pays producteurs nickel, est très largement à l'arrêt et par ailleurs était déjà en crise avant parce que structurellement déficitaire, donc à l'aune du marché mondial. Donc bon, bah, voilà. Et le point qui est important, c'est que ça a été dit là, dans la citation qu'on entendait de Manuel Valls, tant qu'il n'y aura pas d'accord politique et enfin une stabilité sur un point de vue institutionnel, la reprise ne sera pas possible, la reconstruction ne sera pas possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait, même les forces économiques et le patronat local est poussé très fort pour un accord que, au final, les loyalistes ont refusé, ce qui nous incite à se poser des questions, c'est-à-dire jusqu'à quel point ces forces politiques restent aussi puissantes qu'elles ne l'étaient. Parce qu'en fait, à certains égards, le 13 mai 2024 a remis les compteurs à zéro, et on peut se demander, et on le saura dans quelques mois lorsqu'il y aura ces élections provinciales, si finalement les électeurs calédoniens vont soutenir cette position intransigeante ou bien plaider pour un accord dont on sait que c'est la condition sine qua non d'une reconstruction et d'une reprise pour ce pays qui, par ailleurs, est riche, donc où il y a des opportunités économiques de développement qui peuvent être tentées à l'avenir.
Mikko Blugeon-Meren, vous vouliez réagir rapidement?
Oui, d'un point de vue économique, parce qu'il faut expliquer pourquoi le nickel est important. D'un côté, on voit à l'échelon mondial que...
Entre 20 et 30% des réserves mondiales.
Exactement. Alors, 25%, on peut même faire plus simple. 25% des réserves mondiales commercialement exploitables se situent en Nouvelle-Calédonie, ce qui devrait normalement faire de la Nouvelle-Calédonie l'un des poumons de l'industrie du nickel mondial. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on a à peine seulement, en 2024, 3% de la production mondiale de nickel qui s'est déroulé en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a une concurrence exacerbée au niveau local, avec notamment l'Indonésie, les acteurs chinois qui, de fait, certes, essayent de développer quelque chose en Nouvelle-Calédonie, même si c'est pas facile d'y rentrer, on va peut-être en parler, notamment sur les questions d'ingérence, mais qui, du coup, à côté de la Nouvelle-Calédonie, ont plein d'autres territoires dans lesquels ils peuvent développer du nickel. On a la Russie aussi, qui est un concurrent direct et qui est extrêmement important. Et la crise qu'on avait vécue l'année dernière, issue donc de cette question du dégel du corps électoral, ou pas, elle a conduit notamment pour le secteur du nickel à une baisse de 50%, donc une division par deux des tonnes de nickel extraites des mines, et une baisse de 48%, donc là aussi presque une division par deux, des tonnes de nickel métallurgique effectivement produites. On a vu l'année dernière toutes les usines et toutes les mines de produits métalliques de nickel qui de fait étaient à l'arrêt. Et aujourd'hui, toutes ne sont pas reparties non plus. Et structurellement, en plus de cette conjoncture difficile, c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer que le nickel calédonien soit pleinement compétitif par rapport à ses autres voisins. Et c'est là qu'il y a un vrai défi, notamment sur le volet, par exemple, du coût de l'énergie, par exemple, la décarbonation de cette énergie, le développement d'autres choses qui, aujourd'hui, n'est pas au cœur du débat.
Et c'est un enjeu important aussi parce que ces gisements de nickel sont, pour les Kanaks, aussi un enjeu. Contrôler ces gisements, c'est un enjeu aussi crucial pour les Kanaks qui demandent un peu à se réapproprier leur territoire. Benoît Trépied, quelle suite? Alors, comment sortir de l'impasse? Vous avez évoqué ces élections qui devraient avoir lieu d'ici le 30 novembre, je crois. Elles ont déjà été décalées. Très rapidement, il nous reste juste quelques secondes. C'est ça qui pourrait commencer à débloquer quelque chose, faire un nouveau point sur l'évolution de l'opinion des Calédoniens?
Déjà, ça permettrait de renouveler un personnel politique relégitimé par les urnes, hein, puisque là, le personnel politique est un peu usé jusqu'à la moelle du fait qu'il y a eu ce report, et que je pense que ces élections pourraient être aussi, à certains égards, un scrutin permettant aux citoyens calédoniens de rentrer dans le débat et de dire, bon, alors, comment vous positionnez-vous par rapport à ces deux projets? D'ailleurs, depuis quelques jours, il y a plusieurs partis qui demandent de plus en plus, est-ce qu'on ne pourrait pas faire spécifiquement un référendum sur les deux projets, avec soutenez-vous le projet porté par Valls ou soutenez-vous le projet des loyalistes de partition, histoire que le peuple calédonien s'exprime sur cet enjeu décisif.
Et on va terminer là-dessus en une phrase, Mikko Blugeon-Meren, une phrase.
Et il y a l'enjeu économique derrière, il y a le sujet de l'hydrogène naturel, il y a les sujets de redéveloppement économique, et ça, pour chacun des différents projets, il y a des logiques très différentes qu'aujourd'hui ne sont pas au cœur du débat, malheureusement.
Merci à tous les deux, Mikko Blugeon-Meren et Benoît Trépied, d'avoir accepté notre invitation dans Décryptage ce soir. Dans 30 secondes, le retour de l'actualité africaine.